Matin, je veux porter votre attention sur une fête que nous célébrons une fois par mois ici dans l'Église. Et la fête est celle-ci, le repas du Seigneur ou encore la fête de la Pâque. En effet, c'est une fête. Et on va lire premièrement dans Luc chapitre 22 ce qui est écrit à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison: le maître demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils mangeaient, préparaient la Pâque. C'est la lumière qui arrive dans l'écran, c'est ça? Préparaient la Pâque, voilà, OK. C'était pas la première fois que le Seigneur Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, parce que c'est une fête annuelle. Mais cette Pâque, elle est différente des autres. Cette Pâque, alors, allait donner un sens tout nouveau par la présence du Seigneur Jésus et ce qu'il allait accomplir dans les heures qui allaient suivre. Cette fête de Pâques était célébrée depuis environ 1400 ans. Il est vrai qu'à certaines périodes, les Juifs ont été négligents et ne l'ont pas célébrée. Mais généralement, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait pour... À quelle occasion ça a commencé? Eh bien, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a appelé Moïse, qui était prince d'Égypte d'abord, puis berger, et qui est revenu en Égypte. Il l'a appelé pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Alors, Moïse est allé rencontrer le Pharaon, et là, il y a eu une partie de bras de fer entre lui et le Pharaon, qui ne voulait pas laisser aller une main-d'œuvre aussi abondante, si économique, comme ça. Alors, il y a eu plusieurs miracles qu'on appelle souvent les plaies d'Égypte, des miracles d'intervention de Dieu pour forcer Pharaon à les laisser aller. Après 9 miracles, c'était toujours pas arrivé. Alors, Dieu a dit à Moïse, maintenant, tu vas dire ceci aux enfants d'Israël. Le 10e jour du premier mois, ce sera un nouveau mois, une nouvelle année pour vous autres, vous allez prendre chacun un agneau à la maison, et le 14e jour, vous allez immoler l'agneau, vous allez prendre de son sang et en mettre sur l'encadrement de la porte extérieure de la maison. Et dans la nuit, lorsque mon ange passera, il verra le sang, et le premier-né de la famille sera épargné. Mais dans toutes les maisons où il n'y aura pas le sang de l'agneau sur l'encadrement de la porte, le premier-né sera mis à mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui est arrivé durant la nuit. Les premiers-nés de toutes les familles des Hébreux ont été épargnés parce qu'ils ont obéi à ce que Moïse disait. Mais parmi les Égyptiens, les premiers-nés de toutes les familles sont morts ainsi par un jugement de Dieu. Et cette nuit-là, ils ont mangé des pains sans levain et des herbes amères, et le Pharaon les a laissés partir. Allez-vous-en! Ça n'était assez pour lui. Ils ont quitté le pays d'Égypte. Et ça a été l'institution de cette fête de la Pâque qu'ils ont célébrée par la suite, année après année. Une vie innocente, un agneau sans défaut, d'un an, une vie innocente avait été sacrifiée pour le fils aîné de chaque famille. On appelait ça la Pâque de l'Éternel. Le mot Pâque veut dire passer outre. L'ange exterminateur est passé au-dessus des maisons. Il les a épargnés. Ils ont été libérés d'une vie d'esclavage. Et ils ont reçu donc l'ordre de célébrer cette fête année après année pour se rappeler d'où ils étaient auparavant. Mais cette fête, mes frères et sœurs, elle était prophétique. Elle annonçait une nouvelle Pâque que le Seigneur Jésus ici, on voit, allait instituer avec ses disciples. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il était accompagné d'eux de ses disciples. Il a dit: « Voici le nom de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a reconnu en lui l'agneau envoyé par Dieu. Et les disciples de Jean ont suivi Jésus. Beaucoup plus tard, l'apôtre Pierre a écrit: « Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ce n'est pas la perfection de la vie de Jésus qui nous sauve, mais sa mort à la croix. Bien sûr, il fallait qu'il soit parfait, mais c'est sa mort à la croix qui nous sauve. Chapitre 22 encore, nous lisons la suite. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit: « J'ai vivement désiré m'en fais cette part avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper de même, il prit la coupe, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Il avait désiré vivement manger cette Pâque. Les autres fêtes de Pâque précédentes étaient importantes, mais celle-là était vraiment significative pour lui surtout, parce qu'il allait maintenant passer par quelque chose de très difficile. Et ça nous dit ceci, frères et sœurs. Ça nous dit que c'est important pour nous aussi de participer au repas de la Pâque. C'est important d'y participer. Ça fait partie de la vie de l'Église. Dans le judaïsme et dans l'Église primitive, généralement, on prenait le repas du Seigneur au cours d'un repas qu'on appelait un agapé, n'est-ce pas? Alors, on prenait la communion, qu'on appelait le repas du Seigneur, autour d'un repas qu'on partageait ensemble, on appelait ça agapé. Mais il y a donc dans cette communion deux éléments importants que vous allez avoir tantôt, le pain et la coupe. Deux éléments matériels, mais qui représentent quelque chose de très spirituel. Les éléments indispensables. Le pain qui nous parle du corps du Seigneur et la coupe, le jus de raisin, qui nous parle de son sang qui a été versé. Le Seigneur dit quoi? La nouvelle alliance en son sang. Une alliance. Une alliance, c'est un testament. Le Nouveau Testament, on pourrait dire une nouvelle alliance aussi. C'est un engagement de la part de Dieu. Souvent, nous, quand dans notre pensée, quand on parle d'alliance, on pense à un engagement entre deux personnes. Mais ici, c'est l'engagement de la part de Dieu envers nous. Une nouvelle alliance dont Christ est le médiateur par excellence. Il y avait une alliance au Sinaï déjà bien auparavant. Et là, Dieu avait pris un engagement envers le peuple de les conduire. Dieu a donné ses lois. Mais la nouvelle alliance, elle est supérieure en ceci. Dieu dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ça, c'est la nouvelle alliance qu'il fait avec nous. Maintenant, auparavant, ils avaient la loi, ils devaient observer la loi de Moïse. Maintenant, Dieu écrit ces choses dans nos cœurs. Il les met en œuvre en nous. C'est le privilège de tout chrétien. Il nous rend capable de vivre selon sa parole. Vous croyez ça? Il nous rend capable. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, dit quoi? « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Vous purifierez de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Vous donnerez un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. » Donc, c'est un miracle de Dieu qui se produit à la conversion. Dieu met ces paroles-là en nous. Dieu met sa vie en nous, nous rend capable de vivre selon sa parole. C'est extraordinaire, ça. On ne pouvait pas faire ça avant. Maintenant, on peut le faire par la conversion. Un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre. Qui veut un cœur de chair ici? Tout le monde, hein? Cœur de pierre, c'est un cœur dur. Dieu nous attendrait, nous changer et nous transformer. Il nous invite à entrer dans cette alliance, à prendre un nouveau départ dans notre vie. S'il n'est pas déjà fait, Dieu vous invite aujourd'hui à prendre ce nouveau départ, à vous tourner vers lui, par la conversion, par la foi en son sacrifice à la croix. C'est tout simplement ça. C'est une conversion. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Alléluia. C'est le miracle que Dieu veut faire dans nos vies, frères et sœurs. On a parlé d'un miracle tantôt, de le chanter, mais Dieu veut faire un miracle de conversion, de nouvelle naissance en nous également, s'il ne l'a pas déjà fait. Maintenant, prendre la communion ne nous sauve pas. Lorsqu'on prend la communion, lorsqu'on prend le morceau de pain, ce n'est pas le Jésus-Christ qu'on reçoit dans le pain. C'est symbolique. Ça représente ce qu'il a fait pour nous. Il faut d'abord l'avoir reçu comme notre sauveur personnel. Ensuite, on prend la communion pour se rappeler ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on prend la communion. Avec cette reconnaissance-là. Il faut d'abord avoir reçu le pardon de ses péchés. Avoir fait la paix avec Dieu. Et alors, on peut se rappeler ce qu'il a fait pour nous. On peut dire oui, c'est en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous appelle à nous tourner vers lui seul, parce que lui seul peut nous pardonner. Lui seul peut nous purifier. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, on serait perdu. Merci Seigneur qu'il soit venu, frères et sœurs, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit quoi? Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Vous savez, une brebis, là, sans berger, est perdue. C'est l'animal qui s'égare le plus facilement, une brebis. Sans Jésus, on est perdu. On s'égare. On était comme ça. Et Dieu, donc, a envoyé Jésus, le berger de nos âmes, pour nous sauver et nous racheter. Et cette nouvelle alliance, elle garantit le pardon de tous nos péchés, passés et présents. Sans exception. Ésaïe 44 nous dit quoi? J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume, reviens vers moi car je t'ai racheté. C'est pas une belle parole, ça? Comme un nuage. Le nuage, il est beau, mais le vent souffle, il disparaît. La brume, dès que le soleil plombe un peu plus fort, elle s'évapore. Dieu veut parler avec nos péchés. Ils disparaissent. On oublie la brume, on oublie le nuage, c'est disparu, c'est parti. Dans notre société, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont une pauvre image d'eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers d'eux à cause de ce qu'ils ont fait ou à cause de ce qu'ils sont. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais j'ai remarqué, avec les années, que dans l'Église du Seigneur, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont une pauvre image d'eux-mêmes à cause de ce qu'ils ont fait. Leurs manquements sont parfois honteux, se pensent indignes du Seigneur, ils se voient comme de mauvais chrétiens, ils ne sont pas fiers d'eux, puis des fois ils se sentent condamnés. J'ai remarqué ça. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, je vais vous dire ceci, on peut être pardonné à 100%. On peut être libéré à 100%. La Bible dit quoi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et il m'est venu une image, une pensée que j'ai pensée. C'est peut-être une bonne illustration. Vous jugerez vous-même si c'est bon ou pas bon. Mais pour illustrer ce que je dis, on va mettre la photo suivante. Vous reconnaissez cette famille, n'est-ce pas? Le premier ministre Trudeau, son épouse et leurs enfants. Est-ce que les enfants de M. et Mme Trudeau ont fait quelque chose de spécial pour les enfants du premier ministre? Non. Le papa est devenu premier ministre. Alors maintenant, ils vivent dans la maison du premier ministre. C'est un privilège. Chaque jour, ils mangent à la table du premier ministre. Ils sont vêtus par la générosité du premier ministre. C'est bon, ça? Qui voudrait être l'enfant du premier ministre, si? Mais je vais vous dire ceci. On a mieux que ça. Vous êtes enfant de qui? Ah, c'est bien mieux, hein? Parce que Dieu, lui, est bien plus riche que le premier ministre. L'or et l'argent sont à lui. Quel privilège pour ces enfants-là. Est-ce que les enfants du premier ministre s'inquiètent pour leur avenir? Non. Qui s'inquiète de son avenir ici? Ne levez pas la main, ça pourrait arriver. Que... Je ne veux pas vous mettre à la gêne, personne. Mais des fois, ça nous tracasse un peu. Pourtant, on a qui comme père? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia! Et j'aimerais vous ajouter ceci. Ils sont gardés 24 heures sur 24 par la GRC. En Jésus-Christ et sous le regard de notre Père céleste, on est en parfaite sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'endroit le plus sécuritaire au monde, c'est sous la protection de Dieu, où qu'on soit. Maintenant, les enfants du premier ministre, c'est des petits-enfants, ça doit arriver qu'ils se chicanent. Ça doit arriver qu'ils ne sont pas obéissants. Ça doit arriver qu'ils se conduisent mal. Est-ce qu'ils sont encore les enfants du premier ministre? Oui ou non? Oui, OK. Est-ce qu'il est prêt à leur pardonner? Je présume que bon père de famille, il doit leur pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences à leur mauvaise conduite. Non, il peut y en avoir. Dans toute famille, il y a des règles. Alors sûrement qu'ils ont des règles dans la maison. Et puis les enfants, ben, s'ils se conduisent mal, ils perdent des privilèges ou une certaine discipline qui s'exerce. S'ils se conduisent bien, ils sont récompensés. Mais ils demeurent toujours les enfants du premier ministre. Est-ce que M. Trudeau leur reproche Si l'année passée, quand tu m'as désobéi, là, pensez-vous? Est-ce qu'on reproche à nos enfants les choses de l'année passée, il y a 2 ans? Non. Quand c'est pardonné, il passe l'éponge, c'est fini. Quand Dieu nous pardonne, Dieu passe l'éponge, c'est fini. Pourtant, il y a des enfants de Dieu qui s'en veulent. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas fiers d'eux encore, qui se reprochent des choses. Et malgré nos écarts, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu nous aime. Il ne nous rejette pas. Je suis devant vous ce matin, pas parce que je suis meilleur que vous autres. Ça m'arrive de trébucher. Ça m'est arrivé. Je n'étais pas toujours fier de moi. Mais merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour son pardon. Souvenez de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a suivi Jésus de loin, il est entré dans la cour. Puis il y avait des gens qui étaient là. Puis il y a une servante qui dit, « Il me semble que tu étais avec Jésus Galiléen, toi. »
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Alors Pierre, il se sentait un peu coincé, il s'en va vers la porte. Et il y en a un autre qui dit aux gens qui étaient là, « Oh oui, il a dit, il était avec Jésus de Nazareth. » Il dit, « Je ne connais pas cet homme. » Puis là, il a prêté serment, puis il a juré qu'il ne connaissait pas. Alors les gens qui étaient là, disent, « Oh, non, tu reconnais ton accent, tu étais galiléen, toi. » Et là, Pierre, non seulement il a juré, mais en plus, il a prononcé une malédiction contre lui-même en voulant dire que si ce que je dis n'est pas vrai, qu'il m'arrive tel ou tel malheur. C'est ça que ça veut dire, les imprécations. Et là, le coq a chanté. Pierre est celui qui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il est celui qui a marché sur l'eau. Celui qui a fait la pêche miraculeuse. Qui a vu des résurrections. Et là, Pierre, qui renie 3 fois le Seigneur, en jurant même qu'il ne connaissait pas, Pierre s'est repenti. Imaginez, si Pierre s'était dit, « Non, non, c'est fini, là. Impossible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis un mauvais chrétien. Je ne suis pas un bon disciple. C'est terminé. Je m'en retourne à la pêche. J'ai fini ma vie. » Si ça n'était voulu jusqu'à la fin de ses jours, Pierre a saisi la grâce de Dieu. Et lorsque Jésus l'a rencontré après sa résurrection, il n'était pas tellement fier de lui. « M'aimes-tu, Pierre, d'un amour? » L'amour agapé, vous savez, l'amour qui est prêt à se sacrifier. Pierre dit, « Oh Seigneur, je t'aime comme un ami. » Il n'était pas prêt encore à s'engager comme ça. Mais Jésus dit, « Pierre, je t'en veux pas, tu vas pas être mes brebis. » Voyez-vous, frères et sœurs, on peut avoir commis des choses mauvaises, étant que chrétien même. Après 43 ans de vie chrétienne, j'ai vu malheureusement des choses des fois pas très belles. Mais merci Seigneur pour son pardon et sa grâce. Il nous aime malgré tout. Et si on se repent, qu'on demande pardon, eh bien on peut marcher la tête haute, sortir d'ici en chantant par louant le Seigneur. Alléluia! Pas encore. Parce que le diable, il vient, « Ah oui, mais tu l'appelles-tu? » Qu'est-ce que... Là, il... ça recommence. Laissez pas recommencer ça. Si Dieu a pardonné, il a pardonné. Ça veut pas dire que Dieu dit que le péché, c'est pas grave. Parce que Jean-Claude, dimanche passé, a parlé du péché aussi, puis de la sainteté. Dieu ne dit pas que c'est pas grave. Et puis les parents de Trudeau ne disent pas aux enfants, « Oh, c'est pas grave, mon petit gars, tu peux continuer à faire taper sur ta soeur, ça ne me dérange pas. » Non, Dieu ne dit pas ça. Le Nouveau Testament met en évidence les conséquences du péché. Dans les 7 églises, les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, dans 4 d'entre elles, il leur reproche des choses, leur disant de se repentir, sinon il allait perdre certaines choses. Mais s'il se repentait, il allait avoir des bénédictions. Et à la 7e église, qui est peut-être la moins glorieuse de la gang, il leur dit quoi? « Je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu ne tourne pas le dos en disant « C'est terminé pour toi l'église maintenant. » Non, je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entends communion avec toi. Alléluia! Dieu relève. Si le juste tombe, Dieu lui saisit la main et le relève. La communion, c'est un souvenir, n'est-ce pas? Faites ceci à mémoire de vous. Chaque année, dans beaucoup de nations du monde, on commémore l'événement qui a fait de chacune d'elles une nation libre. Ou une nation, en tout cas, un peuple. Au Canada, le 1er juillet, on célèbre la fête nationale Confédération. Je suis mélangé avec la fête nationale des Québécois, c'est pareil. Au Canada, c'est ça. En France, c'est le 14 juillet. Au Mexique, c'est quelle année? À quel jour? Quelle date? Ça fait trop longtemps qu'elle est au Québec, elle s'en rappelle plus, voyez? D'abord, voici en Haïti. Oh boy, ça fait trop longtemps, lui aussi, qu'elle s'en rappelle plus. Mais chaque peuple souligne l'anniversaire de sa libération, parce que surtout les peuples en Afrique, où est-ce qu'ils ont eu des libérations de l'emprise coloniale et tout ça, ils célèbrent ça. Chaque peuple, donc, souligne cela. Eh bien, pour nous, la communion, c'est un rappel constant de l'événement qui a fait de chacun de nous des hommes et des femmes libres. Alléluia. La mort de Jésus-Christ à la croix. L'événement qui a marqué le monde, frères et sœurs. Et qui marque encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est une fête. La fête de la Pâque. C'est une fête. On va voir tantôt un texte par rapport à ça. Jésus a dit, si le Fils vous s'affranchit, vous serez réellement libres. Alors nous pouvons être libres et plus sous l'emprise du péché. Il n'y a plus de raison de ça. L'apôtre Paul écrivait ceci aux Corinthiens. Et l'église de Corinthe n'était pas l'église la plus joyeuse, la plus glorieuse. On va mettre le verset suivant. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Et quand Paul parle de se purifier du vieux levain, c'est que dans les versets précédents qu'on n'a pas lus, il faisait référence à l'immoralité sexuelle qui avait cours dans l'Église. Alors, ce n'était pas très, très reluisant leur affaire. Purifiez-vous donc du vieux levain. Donc, débarrassez-vous de ces choses-là. Détournez-vous de cela. Notre agneau pascal a été sacrifié pour nous. Et c'est possible de se détourner de tout péché, de résister à la tentation si ça revient, et de demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et si on a succombé, frères et sœurs, on doit se rappeler des paroles de David. David dit ceci au psaume 51. Et ça, en passant, c'est vrai pour n'importe quel péché. David, ici, c'est une question d'adultère, et puis une question s'il était coupable d'homicide. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Et plus loin, il dit encore, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous connaissez la neige, vous autres, hein? Surtout cette année. Dieu nous bénit d'abondance. La neige, la pluie, la glace, tout ce qu'il faut. Mais que dit David ici? David confesse son péché à Dieu. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu s'en vouloir, c'était bien le roi David. Dieu l'avait élevé à la royauté. Dieu l'avait béni. Dieu avait été avec lui contre Goliath, contre toutes les armées adverses. Et voici que David trébuche lamentablement. Mais David s'est ressaisi. Et je dis que ce n'est pas seulement pour ce genre de péché-là, mais pour n'importe quel autre péché. Dieu veut qu'on se ressaisisse, frères et sœurs, qu'on se relève à nouveau, qu'on accepte son pardon comme David l'a accepté. Prendre part à la communion, c'est un témoignage public, parce qu'on le fait ensemble, en public, de ma relation intime avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur a pris la Pâque, ce repas de la Pâque, dans l'intimité avec les 12 apôtres. De ma communion personnelle avec lui. Le fait que je le connais intimement. Je l'ai rencontré, puis ça continue de le connaître. Une occasion de lui ouvrir mon cœur et de faire le point sur ma vie aussi. Ça, c'est la partie verticale de la croix. Ma relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que chacun s'examine lui-même. Parce qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas bien dans cette église-là, que chacun s'examine lui-même. Mais pas pour se condamner. Pas pour s'abaisser, pas pour s'en vouloir indéfiniment, mais au contraire, pour permettre au Saint-Esprit de faire la lumière sur son cœur, sur sa vie présente, et faire les correctifs nécessaires, pour s'en détourner. On peut se poser la question, est-ce que je vais laisser quelque chose ou quelqu'un prendre une place dans ma vie qui est indue? Est-ce que je vais laisser quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que mon zèle pour l'Évangile est aussi enthousiaste qu'il était? Est-ce que mon amour pour lui est aussi enflammé qu'il était? Ou passionné? Le psaume 139 te dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. C'est un temps pour s'arrêter quand on prend la communion. Laissez l'Esprit de Dieu nous sonder. On pourrait dire faire un examen de conscience. Mais chaque fois qu'on prend la communion, il faut se rappeler que c'est une fête. Paul dira ceci aux Corinthiens encore, dans le même chapitre que tantôt. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons la fête qui fait de nous des hommes et des femmes libres. Une occasion de se réjouir, et si je retourne au psaume 51, David dira ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia! Rends-moi la joie de ton salut. Alors qu'on a fait cette démarche envers le Seigneur, qu'on a laissé sonder nos cœurs, qu'on a confessé nos fautes, la joie du Saint-Esprit va venir en nous, frères et sœurs. La paix de Dieu vient dans nos cœurs. Quel privilège on a! Lorsque Lévi a reconnu le Seigneur Jésus, il l'a invité chez lui puis il a fait une grande fête pour tous ses amis. Tellement content de le connaître! Zachée le reçut avec joie aussi. On peut se réjouir dans le Seigneur. Mais c'est aussi une occasion de démontrer notre relation fraternelle harmonieuse. Ça, c'est la partie horizontale de la croix. Mes relations avec mes frères et sœurs. Une occasion de manifester ma reconnaissance pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour l'Église de Shawinigan. Alléluia! Amen! Vous voyez la personne qui est à côté de vous, là? Remerciez le Seigneur pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui est précieux. Le lien d'amour et de paix qui nous unit les uns aux autres. C'est puissant, ça. Dieu, par le Saint-Esprit, a fait de nous des enfants de Dieu. On est liés les uns aux autres. On a entretenu cette bonne relation-là, comme dans toute famille. Et voyez-vous, chaque morceau de pain qu'on va prendre est issu d'un même pain. Tu donnes même, c'est des pains sans levain, ça ressemble plus des fois à des biscuits soda qu'à des pains, mais c'est des pains pareils. Mais c'est des pains. Et Paul dira que nous formons un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous participons tous à un même pain. Chaque morceau est issu d'un même pain, on forme un pain ensemble, on participe tous donc à ce pain-là. Ça nous parle de l'unité qu'il y a au sein du corps de Christ. Au sein de l'Église, de la relation fraternelle que nous avons les uns avec les autres. Un amour sincère, authentique. Dans cette même soirée où Jésus a pris le repas de la Pâque avec ses disciples, il a parlé longuement dans l'Évangile de Jean, vous lirez les chapitres 13, 14, 15, 16, 17 et tout là. Vous lirez ces chapitres-là. Au chapitre 13, il leur dit ceci. Après avoir lavé les pieds de chacun d'eux, il leur a dit que lui qui est le Seigneur et Maître, eh bien, il a fait cela, eux devaient le faire aussi les uns envers les autres. Il a laissé un exemple. Mais il leur ajoute ceci. Voici un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et ça, ce mot amour, c'est un amour qui est plus grand que notre cœur. C'est l'amour divin. Ce n'est pas juste des sentiments. Il y a des fois un frère ou une sœur que je peux avoir plus de difficultés à aimer. Alors, Seigneur, déverse en moi ton amour, que je l'aime comme tu veux que je l'aime. Et il le fait. Il veut nous rendre capables de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un amour naturel. C'est l'amour divin. Mais c'est un amour qui produit, si besoin, une réconciliation rendue nécessaire entre un frère et une sœur. Parce que dans toute famille, il peut y avoir des fois un désaccord, un conflit, un malentendu. C'est un amour qui dispose notre cœur à accorder le pardon à mon frère et à ma sœur. Même s'il ne s'excuse pas, ce n'est pas un pardon conditionnel, c'est le pardon que Dieu donne. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. N'est-ce pas? c'est un amour qui peut m'amener à faire des excuses envers un frère ou une sœur. Parce que je n'ai pas bien parlé, parce que je n'ai pas bien comporté, parce que je l'ai offensé. Ou peut-être une attitude intérieure a changé. Est-ce que j'ai porté un jugement envers ce frère ou cette sœur? Des fois, ça peut nous arriver. Puis après, on se rend compte qu'on a mal fait. Mais c'est notre amour qui nous montre quoi? Que s'il y a une relation qui est boiteuse entre un frère et une sœur, eh bien, c'est le moment de la corriger. C'est le moment de faire les correctifs qui s'imposent, de rétablir cette relation-là. C'est pas tout. Prendre la communion, c'est un acte physique, n'est-ce pas? On prend un morceau de pain, on prend du jus, on mange, on boit. Ça nous parle de quoi ici? Que lorsque nous participons au repas du Seigneur, eh bien, cette mort de Christ à la croix, ça rejoint tout notre être entier, corps, âme et esprit. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe a écrit ceci. Vous connaissez sûrement ça. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la vie, la paix, est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures ou ses blessures, ça c'est l'habitude de lire l'ancienne version Louis II, par ses blessures que nous sommes guéris. Tu nous parles de quoi ici? Du pardon de nos péchés, mais également de la guérison de nos corps, n'est-ce pas? Par ses blessures, nous sommes guéris. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire que tout notre être, corps, âme et esprit, participe au bénéfice de la croix. Et on pourrait développer davantage cela, mais ce matin, je n'ai pas le temps de le faire. L'apôtre Pierre a parlé de ça aussi dans son épître, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. La guérison corporelle est aussi un bénéfice de la mort de Jésus à la croix. On peut être reconnaissant de ce qu'il a fait et m'attendre aussi à celui qui nous guérit. Laissez-moi vous lire un témoignage ici que j'ai tiré d'une biographie qui a été la biographie de Erwin Buschmann. Quelqu'un a déjà connu ce prédicateur-là? Quelques-uns. Oui. Denise et moi, on l'a très bien connu, on l'a côtoyé souvent. Et dans sa biographie, il raconte qu'il était venu au Québec en 1982. Et un mois d'octobre, en sortant d'une réunion, il a pris froid. Et le lendemain, il était vraiment enrhumé, la fièvre, la toux, il était convestionné et tout ça. Et c'était la fin de la semaine, puis il devait aller en Haïti pour la fin de semaine pour des réunions. Il a tenté de faire reporter des réunions un peu plus tard, mais les frères là-bas disaient « Non, non, tout est prêt, on vous attend, on a annoncé tout ça. » Donc, il s'est rendu là-bas, fiévreux, mal en point. Il a fait des réunions pendant une semaine de temps. Et il dit, durant cette semaine-là, il passait de son lit à la salle de réunion et de la salle de réunion à son lit. Alors, il était vraiment là, confessionné, c'était quelque chose qui l'accablait beaucoup. Il est rentré en Suisse, parce qu'il était d'origine suisse, et durant le mois qui a suivi, il a pris du mieux, mais il en arrachait encore pas mal. Et voici ce qu'il dit. Au mois de janvier suivant, totalement épuisé, j'ai dû m'aliter. Pendant 3 jours, j'étais incapable de me lever. Mais je refusais d'accepter la défaite, et j'ai pris une décision. Dimanche matin, j'irai au culte où la Sainte Cène était distribuée. Par cet acte, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus qui, par ses meurtrissures, nous a acquis la guérison. En prenant le pain qui représente son corps rompu pour nous, mon corps brisé serait guéri, j'en étais certain. J'ai demandé à mon épouse et à mes filles de m'amener au culte, fussent-elles contraintes de m'y porter. Elles me soutinrent de chaque côté et assis au coin d'un banc, je m'y maintins avec la dernière énergie qui me restait, comme il ne me tardait de voir approcher le pain. Enfin, le voici. Je pris un morceau et le portai à ma bouche. Au même instant, ce fut comme si une montagne tombait de mes épaules. Instantanément, je fus remis. Je me sentis fort et vaillant. Je venais de retrouver une forme physique que je n'avais plus connue pendant ces dernières années où j'avais souvent dû combattre pour me maintenir en santé. J'étais si bien remis que dans le courant d'après-midi, je pus aller faire une promenade d'une heure avec mes filles et j'en revins sans éprouver la moindre fatigue. Il n'y a aucun doute. J'ai vécu là un miracle de guérison instantanée où j'ai par la même occasion retrouvé une excellente forme physique qui m'avait manqué pendant plusieurs années. Mes frères et sœurs, il y a dans la communion, dans la mort de Christ à la croix, une provision de guérison, même pour notre guérison physique ou même mentale ou psychologique. Dieu peut guérir tout notre être entier. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Le Seigneur connaît nos problèmes de santé et le Seigneur sait aussi qu'il peut nous intervenir envers nous. Et j'aimerais vous encourager ce matin de se comprendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Non pas de considérer comment ça pourrait se produire, cette guérison-là, mais de regarder celui qui guérit. Comme le pasteur Jean-Claude disait tantôt, cette femme qui avait une perte de sang, elle disait, si je peux toucher le bord de son vêtement, si je peux toucher, le Seigneur donc a accompli ça à quoi? Seigneur, je veux m'attendre à toi pour la guérison. Et qui sait ce que Dieu peut accomplir aujourd'hui même? Un dernier point. L'apôtre Paul dit, après avoir parlé du repas du Seigneur, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus a dit qu'un jour, il va prendre à nouveau le pain avec ses disciples dans le royaume du Père, dans les cieux. Ça nous parle de quoi? De son retour. Du moment où l'Église sera emmenée au ciel. Il y aura les noces de l'agneau. Alléluia. Ça va être extraordinaire, frères et sœurs. Alors, on se rappelle cela. Et on anticipe même ce qui va arriver dans l'avenir. La communion, frères et sœurs, est un moment important dans la vie de l'Église. Ce n'est pas juste un petit geste comme ça, qu'on prend un morceau de pain, puis on boit un peu, puis bon, ils ont prié, c'est correct. Mais on se rappelle vraiment la grandeur du salut, la puissance du Seigneur Jésus à notre égard, et comment Dieu peut intervenir encore dans ma vie. L'occasion pour l'Église de se recentrer ensemble sur Jésus, de se fixer, focusser sur le Seigneur, de rétablir peut-être des relations qui sont un peu négligées, mais l'occasion donc de faire un ensemble la présence de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. J'invite les musiciens à venir maintenant et les préposés pour la communion s'approcher, si vous voulez maintenant, pour distribuer le pain et la coupe. Faites-le dès que vous serez arrivés, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prenne un temps ce matin pour s'arrêter. Se placer ensemble devant le Seigneur, comme on le fait depuis le début de la réunion. Seigneur, sonde nos cœurs aujourd'hui, ô mon Dieu. Seigneur, on ne veut pas que quoi que ce soit fasse obstacle à notre communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Au contraire, Seigneur, par ce geste qu'on va poser, on veut démontrer cette bonne relation que nous avons. Et Seigneur, si nous avons péché, on t'en demande pardon. Purifie-nous, ô mon Dieu. Pardonne-nous. Lave-nous complètement, mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est devant toi qu'on est ce matin. Vous pouvez distribuer maintenant, si vous voulez. Allez-y. Allez-y. On va chanter un chant pendant qu'ils vont distribuer.
Regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi, tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce, je sais. À quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle que la voix, je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Oh, oh, oh. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Je veux dire merci pour ton amour. Oh, oh, oh. Le
ensemble, s'il vous plaît.